Le Grand Dialogue.
Siki Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmandi.
Chienne Berry. Siki Kafoba.
Le 27e sommet Afrique-France a-t-il été une réussite? Quels sont les défis et perspectives du 10e sommet? Quel avenir pour la coopération Afrique-France? Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, nous nous penchons dans ce grand dialogue sur le bilan du sommet Afrique-France, le 27e du genre. Nous tenterons de répondre à quelques questions avec nos invités qui sont Askia Mohamed, le secrétaire général de la commission d'organisation Afrique-France, du sommet Afrique-France, Ali Tunkara, il est sociologue et analyste, Djatrou Diakité de Faso Kanou, il a participé à l'organisation donc du contre-sommet. Djakari Poudjougou, spécialiste en relations internationales. Je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Sedoumbo.
Le Grand Dialogue.
Le sommet de Bamako, Afrique-France, 27e du genre, a pris fin hier dimanche 15 janvier. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement se sont entretenus pendant deux jours sur les grands mots du continent et la coopération entre la France et nos États. Nous posons cette question à Askia Mohamed. Vous êtes le secrétaire général de la commission d'organisation du sommet. Peut-on dire aujourd'hui que le sommet a été une réussite?
Merci beaucoup, cher ami. Merci à Studio Tamani de nous accueillir. Vous avez appelé il y a à peu près 2 heures de temps. Nous avons volontiers répondu à cet appel.
Merci pour votre disponibilité.
Je pense que c'est tout à fait normal. Il n'appartient pas en tant que secrétaire général de dire que ça a été une réussite, mais je voudrais vous dire un certain nombre d'indications qui sont des indications assez fortes pour prouver que c'est une réussite. Je crois que le président Issoufou et le président Condé de Guinée ont salué l'exceptionnelle organisation. Ils ont souligné la qualité de l'accueil des Maliens et cela est au crédit du peuple malien. Ce n'est pas tout. Le président François Hollande l'a dit à des niveaux appropriés qu'il était parfaitement heureux que le Mali ait pu faire face à ce défi. C'était un véritable défi. En 2013, lorsque, après le sommet de l'Élysée, les chefs d'État africains et le président français l'ont confié au Mali, vous saviez bien que le contexte était très différent. Il y a quelques mois encore, certains doutaient de la capacité des Maliens à relever ce défi et à l'organiser. Ce n'est pas à bien l'organiser, mais même à l'organiser. Du côté du comité, nous n'avons jamais douté. Jamais douté. Parce que depuis que le président Koulibaly a pris les rênes, et en poursuivant les travaux
de Abdoulaye Koulibaly, le président de la commission d'organisation,
en poursuivant, en reprenant le travail fait par les uns et les autres, qui a été revisité, on a revu l'architecture du CENOSAF pour le rendre encore plus fonctionnel, en lui conférant une véritable autonomie d'action, en le basant au niveau du président de la République. Nous nous sommes réunis, équipe française et équipe malienne, et nous avons identifié à tous les niveaux les goulots d'étranglement. Et indépendamment de cela, je vais vous dire que nous pensons vraiment, et c'est une grande satisfaction pour le Mali et les Maliens, que le sommet a été une réussite sur le plan politique. On pourra revenir là-dessus un peu plus longuement, je vais le développer. Une réussite au plan sécuritaire. Je crois que tout le monde a pu voir que malgré les menaces qui étaient réelles sur le sommet et dans le pays, les forces de l'ordre ont tenu l'ensemble du pays. C'était quelque chose d'extrêmement important pour montrer que le Mali était un pays sécurisé et que nos États, les forces armées, les forces de sécurité pouvaient faire face à la situation. C'est un défi qui a été relevé, je crois que c'est extrêmement important. Au niveau de l'organisation matérielle, fonctionnement, l'accueil, l'hébergement, les conditions de transport, tout a été, je ne dirais pas parfait, mais presque parfait. Et il faut s'en satisfaire et il faut féliciter l'ensemble du peuple malien pour cela, pas seulement le comité, pas seulement les autorités. Je crois que l'ensemble de la population s'y est mise. Je ne pense pas que ce soit un point qui puisse être contesté à ce niveau.
Merci Yaskia Mohamed. Nous avons également Diatrou Diakité de Faso Kanou. Diatrou Diakité, donc Faso Kanou, a participé à l'organisation du contre-sommet. Mais quel bilan tirez-vous déjà de ce 27e sommet Afrique-France?
Bon, vous savez, c'était le 27e sommet. Donc, depuis plus de 40 ans qu'on tient ce sommet sans que l'Afrique avance. Mais je rejoins un peu le secrétaire général, le fait que le sommet ait eu lieu à Bamako est positif parce que les gens ne pensaient pas qu'on pouvait organiser ce sommet.
Nous rappelons d'ailleurs qu'un attentat a été déjoué à Bamako, un attentat qui visait le sommet.
Voilà, donc ça c'est quand même positif. Mais je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur les conclusions du sommet et sur les perspectives qui, malheureusement, on aura l'occasion de revenir dessus.
Merci. Jacques-Henri Poudjougou, vous êtes spécialiste en relations publiques, en relations internationales. Quel bilan tirez-vous de ce 27e sommet? Est-ce qu'il a été positif?
Bien, si vous me le permettez, je voudrais d'abord saluer tous nos téléspectateurs et auditeurs. Et le studio Tamani également, de nous avoir invités et de permettre ces dialogues, ces grands dialogues. Et je voudrais d'abord revenir sur le concept même de sommet. Avant de parler de perspective, avant de se poser la question est-ce une réussite ou pas, un sommet, c'est juste un outil diplomatique. Comme c'est une conférence internationale en quelque sorte. Donc les sommets sont des outils diplomatiques qui sont utilisés dans les relations internationales. Ils sont importants parce qu'ils orientent la politique internationale, ils orientent même l'ordre mondial. Et dans ce sens-là, les sommets sont importants. Mais ici, la question que nous devons nous poser, ce n'est pas sur l'organisation du sommet en tant que tel comme réussite, mais qu'est-ce que ce sommet nous apporte comme outil
justement, qu'est-ce qu'on peut noter comme acquis jusqu'ici?
On ne peut pas encore parler d'un acquis, parce que si nous devons intégrer le sommet comme outil diplomatique des relations internationales, qu'est-ce que nous avons pu avoir avec cela? Jusqu'à présent, c'est quand même prématuré de dire qu'il y a des acquis. Donc c'est encore trop tôt, à mon avis, de parler d'acquis ou de réussite. En termes d'organisation, oui, on peut le dire, mais en termes d'apport de ces sommets, c'est encore prématuré.
Merci. Je vous donne la parole tout de suite. Le temps de faire réagir Ali Tunkara, qui est sociologue et analyste. Ali, dites-moi, Bamako, les hôtels de Bamako étaient quand même quasiment tous pleins. Il y a eu cette coopération-là entre les patrons d'entreprises africains et le MEDEF. Alors, est-ce qu'on ne peut pas noter ça justement au nombre des acquis?
Non, clairement, je crois que... En parlant du sommet, déjà, des grandes tendances se dégagent. En fait, il y a une première tendance qui pense que le sommet en tant que tel est aussi la traduction de cette domination de la France sur les pays anciennement colonisés par elle. Bon, ça, ce sont ceux-là qui s'inscrivent dans la posture un peu pessimiste. Mais fondamentalement, reconnaissons quand même que les grands axes sont dégagés. Le sommet a permis, justement, aux différentes entreprises, qu'elles soient françaises ou maliennes, de saisir des opportunités. Lesquelles opportunités pourront être bénéfiques également pour nos entreprises locales? Mais est-ce que nos entreprises sont en mesure d'être en compétition vis-à-vis de ces entreprises françaises?
Est-ce que justement le sommet ne visait pas justement à mettre des accents particuliers sur tout ça, l'équilibre entre nos différentes structures?
Je crois que l'équilibre, en parlant de géostratégie, est quand même c'est plus que du mensonge en fait, parce que le monde est un champ de bataille dans lequel chaque partie a intérêt d'arracher la plus grande partie en fait. Donc les partenaires qui sont venus ne sont pas là pour la charité, donc chacun s'efforce à son niveau d'arracher le maximum du gâteau. Bon, si nous ne sommes pas outillés de la même façon qu'eux ou nous ne sommes pas dans le même dispositif de compétition, il va de soi que nous sortions en termes d'opportunités perdants en fait. Donc je crois que fondamentalement l'idée du sommet en en soi est une bonne chose. Mais quel usage faisons-nous de ces différents engagements pris? Et ça, ces engagements sont honorés enfin, dans l'intérêt supérieur du pays. Voilà la grande question qu'il faut susciter.
Alors, en somme, même les organisateurs du contre-sommet sont d'accord que c'était une bonne chose d'organiser finalement le sommet Afrique-France, hein, M. Diakité Diatro.
Oui. Tout ce dont vous parlez, et c'est tout ce dont parle la presse, pour moi, c'est l'intendance. Pour moi, l'acquis, c'est que ça prouve que le Mali est fréquentable.
Et Bamako a changé d'allure, hein, déjà. On va demander d'ailleurs au secrétaire général. Bamako est devenue toute coquette. Remise à neuf. Est-ce que les travaux d'embellissement continueront, hein, même après ce sommet-là? Est-ce que Bamako va garder justement cette belle texture et va d'ailleurs s'améliorer, hein?
Je vais répondre à cela, mais je voudrais au préalable répondre à mon voisin.
Allez-y.
Qui dit qu'il n'y a pas d'acquis. Maintenant qu'on ne peut pas l'évaluer. Non, je pense que je ne peux pas laisser faire passer cela. Il faut que je précise. Vous avez parlé tout de suite de la fréquentabilité du Mali. Il faut quand même s'imaginer ce que l'on dit du Mali. Zone rouge, on a l'impression que c'est le Far West. Ce n'est pas la réalité. Faire venir ici 33 chefs d'État et 6 vice-présidents, sept premiers ministres, tant de délégations au niveau des Nations Unies, de la francophonie, des organisations internationales et africaines, assurer leur sécurité pendant cette période, cela montre quand même que nous avons les capacités d'organiser de grands événements dans la sécurité. C'est un acquis extrêmement important et positif, pas seulement pour les hôteliers, mais également pour l'image du Mali. Et c'est quand vous le dites en termes de fréquentabilité.
Alors on a vu des foires d'achat d'ailleurs.
Non, hein, qui ont réussite aussi, également. J'ai dit sur le plan politique, il faut le reconnaître. Pourquoi sur le plan politique? Parce qu'on est venu discuter de thèmes extrêmement importants pour le Mali. Quand on discute de la question du terrorisme, c'est une question qui intéresse au premier chef les Maliens qui sont confrontés au terrorisme. Et donc, que les États du monde viennent le faire ici, chez nous, c'est quand même important pour nous. Parce qu'il faut que le monde comprenne que les difficultés, qui sont les difficultés du Mali, sont des enjeux aussi à l'échelle de la planète qui intéresse l'Europe. Et le président Hollande l'a dit, votre intérêt, c'est notre intérêt. Ils ont intérêt à la sécurité du Mali, à la stabilité de la région. Donc là également, c'est un résultat politique positif, important, qu'il convient également de noter et qui est à mettre au crédit du gouvernement. Et autre résultat, et je pense que je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous avez pu vous rendre compte que au niveau de l'aide publique, on passe de 20 milliards à 23 milliards.
On va revenir
oui,
tout à l'heure.
Ce sont des acquis. Donc, il y a réellement des acquis. Il y a les acquis sur le plan infrastructurel. Vous avez pu vous rendre compte que, comme vous l'avez dit, Bamako a changé. Ce n'est pas encore la coquette comme nous l'avons...
Mais est-ce que ces travaux, justement, d'embellissement de la ville de Bamako vont continuer?
Le CENOSAF est une structure issue de la volonté du chef de l'État avec une mission précise et limitée dans le temps.
Donc on peut dire que votre mission est close?
Non, notre mission n'est pas close parce que, je vous ai dit, tout ce qui a été fait par le CENOSAF a été inspiré d'abord par cette volonté-là. Hein? Montrer que nous pouvons faire beaucoup de choses. Et ce qui a été fait en quelques mois montre que les Maliens sont capables de rédemption et de résilience. Concrètement, les villas dont on parle, les villas présidentielles, elles ont été montées en 5 mois et quelques semaines. 5 mois. Hein? Vous avez pu suivre le pavillon d'honneur. C'est en un an, pratiquement, que tout ça, ça a été mis en place. Au niveau de l'aéroport, au niveau des routes, tout ça. Ce qui a été fait au niveau de Salam. Il ne faut pas le négliger. Les équipes ont travaillé et ont travaillé avec beaucoup de confiance et beaucoup de foi. Et c'est cet engagement-là qui doit être poursuivi. Donc, en fait, il s'agit tout juste de montrer l'exemple et de dire que nous sommes capables de le faire. Et si nous avons pu le faire en un si laps de temps, cela signifie que nous pouvons encore accélérer la cadence et réussir. Et certainement mieux que cela.
Merci à aussi à Mohamed. Nous prenons quelques secondes de pause. Nous reviendrons pour la suite de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
27e sommet Afrique-France, quel bilan? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Alors, le secrétaire général Askia Mohamed nous parlait tout à l'heure de la logistique, mais moi, j'ai juste cette question-là aussi. On a vu aussi l'image d'une capitale très sécurisée. Est-ce que on va garder ce dispositif pour encore garder cette, entre guillemets, safety, comme les anglo-saxons le disent, pour assurer les Maliens?
Tout d'abord, je pense que nous devons nous féliciter. Hein, nous devons vraiment nous féliciter et féliciter les forces de l'ordre. Tout de suite, avant de venir ici, nous nous sommes réunis, équipe française et équipe malienne. Et nos partenaires nous ont dit qu'au niveau du tableau des incidents, que c'est la première fois qu'ils le voient aussi dans un sommet, et ça aussi c'est une originalité, il est dit zéro incident. Qui aurait pu penser à cela?
Non, mais il y a ce tentat déjoué à Bamako.
C'est ça le zéro incident.
Il y a l'arrestation de quelques terroristes qui voulaient
c'est
attaquer.
C'est ça le zéro sommet, incident. L'incident aurait été que l'attentat n'ait pu être déjoué. Cela signifie que les forces de l'ordre ont travaillé, que les services de renseignement ont pu coordonner leurs efforts avec les partenaires, avec les pays de la sous-région, pour mettre fin à cette situation avant que les dégâts ne se produisent. Et ça, il faut s'en féliciter. Donc, réellement, je pense que même si le dispositif va être poursuivi, ce n'est pas à moi de le dire. Le ministre de la Sécurité qui a en charge l'évaluation de la menace et l'adaptation de l'outil, le ministre de la Sécurité adaptera en fonction des renseignements qu'il aura. Il adaptera le dispositif. Et je pense que ce sont des contraintes que nous devons accepter. Ce sont des contraintes qui sont importantes pour nous. Parce que chaque vie perdue est une vie quand même de perdue pour le Mali.
Merci Askia Mohamed. Diatrou Diakité de Fassou Kanou, donc le contre-sommet. Le président Ibeka en a profité pour clarifier les choses quant à l'accord de réadmission en présence d'ailleurs du président français. Il a dit on n'a pas signé et on ne signera pas. Est-ce quand même une bonne chose hein?
Bon, moi je ne rentre pas dans ce jeu, mais ce que je peux dire, c'est que le talon d'Achille, les autorités maliennes, c'est le manque de communication. Les Maliens communiquent très peu et très mal. Je crois que c'est ça le fond du problème.
Alors, quel était déjà l'objectif hein, de votre contre-sommet? Qu'est-ce que vous vouliez dire à travers ce contre-sommet?
Comment sortir de la France-Afrique? Parce que nous sommes au 27e sommet et l'Afrique n'a pas avancé, encore moins le Mali. Le Mali a reculé. J'ai dit au début que personne ne pensait que nous étions capables d'organiser ce sommet. On l'a fait, bravo pour le Mali. Mais le Mali a reculé. On n'a pas avancé au cours des 27 sommets. Parce que les Africains ne s'assument pas. Nous comptons sur les autres. Et on ne peut se développer comme ça. Bon. J'espère qu'on aura l'occasion de rentrer dans le détail de ce débat.
D'accord. Djakari Poudougou, je vous vois hocher de la tête. Hein. Vous êtes spécialiste en relations internationales. Il y a eu aussi quelques frustrés. Hein. Quand on voit le cas de l'artiste malienne Rokia Traoré, qui, quand même, a voulu amener cette contribution qui a été appelée, qui a été annulée à la toute dernière minute.
Oh, merci une fois encore. Je voudrais quand même préciser davantage ce que j'ai voulu dire à M. Askia Mohamed, qui est là à ma droite. Il faut faire la distinction entre l'organisation du sommet, c'est-à-dire l'organisation d'une conférence internationale, et le sommet lui-même en tant qu'acquis. Qu'est-ce qu'il apporte lui-même, le sommet lui-même? Je crois que la question qui est posée, c'est ça. Ce n'est pas de savoir si l'organisation du sommet, le côté organisation, a été une réussite, mais plutôt, est-ce que ce sommet a déjà des acquis? Quel est son intérêt? Alors, et là, je reviens en soulignant.
23 milliards d'euros hein, en plus des fonds promis pour la COP. Hein, parce que vous pensez que c'est quand même un financement conséquent, non?
Oui, mais jusque-là, il faut attendre, voir ce qui sera fait de ces fonds et ce que ces actions vont produire pour parler d'acquis. Et tout à l'heure, notre doyen a dit il y a 27 sommets, le Mali n'a pas avancé, l'Afrique n'a pas avancé. Je ne vais pas entrer dans les détails, même en termes d'organisation, parce que On n'a pas tout le temps pour ces débats. Sinon, si vous prenez l'axe de... L'axe routier de l'aéroport, vous verrez que les dalles n'ont pas encore pu être posées à tous les endroits quand même. Ça, c'est juste un petit exemple. Je ne vais pas entrer dans ces détails parce que je m'intéresse à ce que ce sommet peut apporter. Là, cela va dépendre de notre capacité à nous prendre en charge, comme le doyen l'a dit, notre capacité à nous prendre en charge en relations internationales. C'est aussi cela, notre politique étrangère. Comment nous l'amenons ? Est-ce que nous arrivons à transformer les situations défavorables pour qu'elles soient favorables ? C'est ça. Comment nous utilisons les décisions, les actes de ce sommet ? C'est là la grande question à se poser.
Merci. Alors, Ali Tunkara, on a également entendu le président Hollande affirmer qu'aucun groupe terroriste ne contrôle le Mali. Pour autant qu'on peut dire que le pays est sécurisé, mais un rapport de la FIDH fait état d'une recrudescence de 121% de la violence dans certaines zones au nord et au centre. 385 attaques en 2016, plus de 332 morts, dont 207 civils.
Je crois que Hollande fait allusion à des occupations officielles. Mais sinon, si l'on s'intéresse au centre du Mali, notamment les raisons de Mopti et de Ségou, en tout cas, il y a une poussée sans précédent, effectivement, de l'extrémisme violent, lequel extrémisme violent, c'est même. Il y a un enchevêtrement entre l'action violente et même certaines questions liées à l'identité ou à des revendications identitaires. Bon, peut-être que, qu'en parlant d'Al-Qaïda.
On a beaucoup parlé de paix et de sécurité lors de ce sommet.
Nettement, et reconnaissons quand même que le début 2012 et maintenant, des changements ont été opérés en matière de lutte contre le terrorisme et toutes les actions violentes. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même des survivances, des formes de violence que nous observons ça et là, notamment le cas de la région de Mopti, également la région de Ségou. Même les régions anciennement occupées par les différents mouvements extrémistes violents, on n'arrive pas quand même à éradiquer le terrorisme. Donc, son optimisme, il devait être prudent. Donc, vouloir dire que en aucun cas, on ne peut parler d'une occupation quelconque des terroristes sur une portion du territoire malien. Je crois que c'est un peu trop quand même. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu optimiste par rapport aux actions menées par les forces de sécurité et la défense française. Mais qu'à cela ne tienne, je crois qu'il y a des efforts à concentrer à ce niveau.
Hein. Voilà. Et on a également parlé d'un plan global sous-régional de sécurité. Est-ce que vous pensez qu'il répondra justement aux besoins sécuritaires actuels?
Le plan, il peut l'être en partie, mais pas totalement. J'ai tout le temps dit, le terrorisme n'est nulle part vaincu à 100%. Même en Afghanistan, en Irak, où on a quand même toutes les puissances militaires présentes dans ces différentes localités. Mais dans le contexte africain, ce qui est quand même déplorable, au-delà de toutes ces aides, tant financières que même militaires, si les Africains eux-mêmes ne sont pas suffisamment outillés, ne sont pas conscients des enjeux qui sont les leurs, et notamment, je parle de la corruption des forces de sécurité de la défense, je parle de ces différents clivages ethniques, de ces guerres entre les différentes ethnies, et il va de soi que les efforts consentis par l'aide internationale n'aient pas suffisamment d'impact en fait dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité. Donc il faudra que l'Afrique se restructure, que l'Afrique se pose des vraies questions existentielles, de se prendre en charge, qui parle d'une prise en charge et parle aussi des stratégies qui émergent du local. Voilà, c'est extrêmement important. On ne va pas lutter contre le terrorisme à Paris de la même manière qu'à Tombouctou, qu'à Gao, qu'à Kidal. Vous comprenez que le local doit nettement primer sur le mondial, en fait, dans le cadre de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.
Merci. Diatrou Diakité souhaite réagir.
J'aimerais intervenir sur les 23 milliards d'euros.
Allez-y.
C'est beaucoup, mais c'est une goutte d'eau par rapport à l'Afrique. Mais ça peut servir si nous, Africains, nous savons l'utiliser comme carburant pour amorcer le moteur de développement.
Vous pensez que 23 milliards suffiront?
Non, j'ai dit que c'est une goutte d'eau.
Pour amorcer le développement.
Tout dépend de l'utilisation que nous en faisons. On a reçu combien de 23 milliards en 50 ans? Ça n'a servi à rien. Donc c'est ça le problème. Il faut que nous, Africains, nous soyons les acteurs, les sujets de l'histoire et non les objets.
Merci. Askia Mohamed, secrétaire général de la commission d'organisation.
Il y a quand même un point de consensus et de convergence à notre niveau. C'est que la responsabilité du développement, la responsabilité de la sécurité, c'est d'abord
nous-mêmes.
Nous, ce sont les Africains qui doivent assurer leur développement, leur sécurité. Les appuis internationaux, quels qu'ils soient, ne sont et ne demeureront que des appuis. Donc, je crois qu'il y a entre nous, malgré les inflexions de position, il y a quand même cette convergence de vues entre nous sur ces questions. 23 milliards, ce n'est pas une petite somme. Je pense que nous ne devons pas dire que c'est une goutte d'eau. Parce que nous vivons une crise mondiale. Nous devons comprendre et être à l'écoute du monde et des difficultés du monde. La France est un pays qui a aussi ses difficultés. Donc lorsque un pays, malgré, et vous suivez tous les jours l'actualité, fait cet effort, je pense que nous ne devons ni le sous-estimer, ni le mésestimer. Nous devons l'apprécier à sa juste valeur. Et trouver les moyens, évidemment, d'une meilleure utilisation de ces ressources.
Alors 23 c'est... milliards d'euros pour tous les pays africains.
Oui, mais
c'est certains analystes ont décrit justement...
Nous avons des potentialités énormes en Afrique. Nous avons des gisements importants d'investissement. Et c'est pour cela que je ne suis pas d'accord quand on dit que nous n'avons pas de résultats visibles. L'un des résultats visibles, c'est que désormais, il y a une rupture par rapport aux autres sommets. Vous avez suivi les forats qui ont eu lieu. Eh bien, ces forats montrent le lien que nous devons faire et la continuité désormais avec la présence de la société civile au côté au niveau des réunions des chefs d'État.
Alors la société civile qui s'est sortie un peu négligée d'ailleurs lors de ce sommet. Moi j'ai entendu quelques critiques justement sur les réseaux sociaux qui venaient de la société civile.
Oui, mais nous sommes en démocratie. Mais c'est une première ce qui s'est passé avec les forats. Et également noter que nous avons pris une thématique qui intéresse en particulier le Mali, l'entrepreneuriat féminin dans le monde agricole. Et il y a quand même beaucoup de nos mères qui sont dans le monde rural, et leur donner des perspectives avec les femmes leaders dans les entreprises, c'est quand même indiquer un nouveau chemin. Et c'est un point de rupture et c'est une indication de ce qui peut être fait à l'avenir. Également pour tous ces jeunes, quand on parle de migration, il faut offrir des perspectives réelles sur place, en disant que nous ne pouvons pas attaquer les autres et nous-mêmes ne pas prendre notre responsabilité quant à l'éducation, à la formation. Et les jeunes représenteront l'essentiel de la population dans quelques années. C'est une chance, ça peut être aussi une bombe
de la population mondiale.
De la population africaine en particulier. Particulièrement, mais cela va s'accroître. Mais il faut leur offrir des perspectives. Leur offrir des perspectives, c'est d'abord leur assurer une très bonne éducation, une très bonne formation. On le dit chaque fois, mais il faut aussi y aller.
Justement, est-ce que ce sommet a réservé cette place essentielle-là à la jeunesse?
Vous l'avez suivi, vous ne l'avez pas vu dans les sommets précédents. Donc c'est un départ et c'est aux jeunes de prendre le pouvoir, c'est aux jeunes d'assurer demain leur place et à l'État, évidemment, de mettre en place les structures comme partout, en matière d'éducation, en matière de formation, et investir là où c'est important, là où c'est utile, dans l'éducation, dans l'agriculture notamment. Vous imaginez le Mali avec toutes ses capacités en matière agricole, quand même pourra apporter énormément. Et donc, les financements sont là. Nous allons essayer de pousser à ce qu'on puisse nouer des liens importants économiques entre nos pays et les partenaires européens, la France en particulier. Et la phrase du président Hollande est une phrase très importante. Nos intérêts convergent dans l'explication qu'il a donnée. Ils ont intérêt à ce que l'Afrique se développe, qu'il y ait un marché et qu'eux-mêmes puissent désormais avoir de vrais partenaires sur le continent.
Alors, monsieur, je vous suggère de prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons pour la suite de cette émission.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani.
Merci de suivre le grand dialogue du studio Tamani, bilan du 27e sommet. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui dans le grand dialogue. Djakaria Poudjougou, spécialiste en relations internationales, a vu le président Hollande qui a profité également de ce sommet pour faire ses adieux. Mais quel sera donc l'impact d'un changement d'exécutif français sur les décisions prises lors de ce sommet?
Et c'est là l'importance du dialogue que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que ce sommet va apporter? Sinon, en tant qu'outil diplomatique, son organisation en elle seule ne veut rien dire. Qu'est-ce qui va sortir de ce sommet? Qu'est-ce qu'il va apporter? Quel changement? Et il faut beaucoup se méfier des images. Ici, on donne beaucoup d'importance aux images au Mali, je veux dire. C'est vrai, on a une image d'une organisation qui a réussi, zéro incident, etc. Là, c'est à Bamako. Et lorsque vous avez la visite du chef du village chez vous, vous allez absolument nettoyer votre cour. C'est tout à fait logique. Qui ne le ferait pas bien? Maintenant, qu'en est-il de la situation sécuritaire dans les autres régions du Mali? Il y a un problème.
Notamment dans le nord et dans le centre.
Dans le nord et dans le centre, vous avez aujourd'hui des fonctionnaires de l'État qui ne peuvent même pas rendre visite à leurs parents dans certaines de nos régions. Donc, la question c'est, est-ce que ce sommet va apporter des solutions à cette insécurité, c'est-à-dire trouver des solutions? C'est là que se trouve la question. Et je pense que sur ce point, il faut souligner que l'approche sécuritaire qui a été développée dans ce sommet ne convient pas, n'est pas efficace. C'est mon point de vue. Je pense qu'il faut revoir autrement le concept de sécurité en ce qui nous concerne, nous, pays africains, et en particulier le Mali. Parce que lorsque vous avez la malgouvernance, la corruption, le niveau d'alphabétisme qui est assez bas, tout cela sont des obstacles à la paix et à la sécurité. Et quand vous parlez de migration, mais je félicite ces courageux qui prennent la route pour un avenir meilleur. Si on ne veut pas qu'il voyage, créons les conditions pour qu'il reste. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense vraiment que le concept ou l'approche sécuritaire doit changer. Et c'est là ce que nous devons voir. Pour ne pas être long.
Merci beaucoup. Djatou Djakité, de façon
calme. Je pense que le maintien ou le départ de François Hollande à la tête de la France ne changera rien. Parce qu'aux États-Unis et en Europe, ce ne sont pas les chefs d'État qui influent sur les institutions. Ce sont les institutions qui façonnent les chefs. Voilà, ça c'est la réalité.
D'accord. Donc, on a assez peu parlé de Kidal lors de ce sommet. Alors, Kidal, pour paraphraser un de mes collègues journalistes, Kidal qui reste une épine dans le pied de l'État.
Bon,
juste le temps que Diatrou réagisse, allez-y.
Le problème de Kidal, il faut que les Maliens s'assument. Nous, on sommes en train de nous épuiser dans la gestion de l'urgence. Mais les Français, ils ont une vision de 25 à 50 ans sur le Mali. Ils savent ce qu'ils veulent.
Qu'est-ce qu'ils veulent selon vous?
Ce qu'ils veulent, ils ne sont pas partis de l'Afrique. Ils veulent contrôler. Ils nous contrôlent, ils veulent continuer à nous contrôler. C'est ça le fond du problème. Ils ont une vision de 25 ans, de 50 ans sur le Mali. Nous ne voyons pas ça. Nous devons, tant que nous ne parviendrons pas à soumettre nos rapports avec les puissances d'argent aux exigences de notre développement interne, nous ne développerons pas.
Merci. Le secrétaire général souhaite réagir, si Ali Tunkara le permet, rapidement, allez-y.
Non, je peux...
Allez-y, sur cette question de Kidal. On a très peu évoqué la question
que
de Kidal.
Je pense qu'il est important que lors de ces sommets, on puisse décrypter les annonces. Vous avez pu suivre que le président Hollande a dit, je peux presque textuellement reprendre à peu près ce qu'il a dit, que la France sera aux côtés du Mali pour l'ensemble du processus de paix. Et qu'elle restera aux côtés du Mali jusqu'à ce que l'État malien puisse recouvrer l'entièreté de son autorité sur son territoire. C'est dit devant la communauté internationale, devant l'ensemble des chefs d'État africains, et cela est extrêmement important. Parce qu'il faut souvent voir les choses dans le temps. Et ma conviction très forte est que personne ne peut diviser un peuple uni. Et nous sommes unis par des milliers d'années d'histoire. Je veux préciser que cet accompagnement, il a été important, et il est important que le président Hollande le dise ici, à Bamako, à ce sommet. Il avait dit, bien avant, que ce qui l'a conduit à agir au Mali était sa plus grande action politique, en tant qu'homme politique. Pas seulement en tant que chef d'État, en tant qu'homme politique. On a parlé de son tropisme, de son amitié avec le président, notre chef de l'État. Mais réellement, soyons reconnaissants, et je pense que le peuple malien est un peuple reconnaissant. Je veux dire que la France...
qui ne comprend pas exactement cette situation, l'attente qui existe.
Je vais vous dire que Churchill a fait bombarder et couler toute la marine française à Merceil-Kébir. Il était l'allié du général de Gaulle. Il était le principal appui du général de Gaulle pour libérer la France. Ça a été une décision extrêmement douloureuse. Mais il faut donner du temps au temps. C'est un autre aussi.
Avant de donner la parole...
Et je veux dire que je n'ai aucune raison de ne pas croire à cela.
Merci. Ali Tunkara, alors sur cette question de Kidal, hein, on a vu déjà qu'il y a un démarrage du MOC qui a tardé à se mettre en place à Gao.
Vous êtes parti très vite.
Oui, parce qu'il
je vous redonne
la parole tout à l'heure.
Il faut aussi avoir confiance dans la parole de nos autorités.
Je vous redonne la parole tout à l'heure. Alors, on a vu finalement que le MOC qui a pu enfin démarrer à Gao, est-ce que c'est un signe encourageant? Mais quand est-ce que vous pensez? Vous pensez que le sommet, dans les résolutions de sommet, l'administration malienne reviendra à Kidal très bientôt?
Peut-être un retour qui va être très tardif, on ne peut pas le nier non plus. En toute sincérité, lorsqu'on analyse avec attention le traitement que la France a accordé au cas kidalois, si l'on peut le qualifier ainsi, il est quand même un traitement tout à fait partial, tout à fait aussi insultant pour un État souverain. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse afficher une telle volonté d'une quelconque reconquête de l'entièreté du territoire et dans le même temps qu'on ait des actions géométrie variable. Bon, quand on parle des différentes régions qui ont été sous occupation, à la fois des occupants extrémistes violents et des indépendantistes, seule la région de Kidal demeure quand même un cas problématique. Jusqu'ici, moi, je ne pense pas que des actions soient amorcées, lesquelles des actions pourraient nous conduire à une présence massive ou en tout cas à une présence réelle de l'État. Le traitement que la France a réservé pour le contexte kidalois, ce traitement devait nous poser des questions tout à fait existentielles. Est-ce concrètement, dans cette temporalité, la lenteur à laquelle nous nous acheminons vers une présence de l'État à Kidal n'est pas aussi gage justement de légitimation même des revendications territoriales? Parce que franchement, 3 ans, 5 ans, on peine à nous installer.
L'accord n'a été signé qu'il y a une année.
Oui, et au-delà, oui, mais si vous regardez les fondamentaux de l'accord, bon, ils sont quand même. Nous sommes en train de le mettre en action. Il y a une mise en route de l'accord. Sauf les cas précis de Kidal. En tout cas, moi je dirais que Kidal d'aujourd'hui n'est pas différent de Kidal de 2012. Donc, en tout cas, des efforts sont consentis sur l'ensemble du territoire, hormis Kidal.
Voilà. Merci. Elle est encore à Djatou Djakité. Pendant 2 jours, les fractures sociales, les mésententes ont été rangées dans le placard. Comment faire en sorte que cette dynamique puisse rester afin que les Maliens puissent avancer réellement?
Bon. Moi, je pense que il faut que nous mettions le Mali, les intérêts supérieurs du Mali, au centre de tout. Majorité opposition, que nous sachions que nous sommes complémentaires de la construction de ce pays.
Et les Maliens de Kaya Kidal.
Que nous sommes complémentaires. Bon.
Alors, donc, le Ségal souhaitait réagir justement sur cette question de Kidal encore, non?
Non, plutôt. J'ai dit que pour autant que l'on ait du respect, je pense, pour la parole d'un gouvernement, de la République, du chef de l'État, je pense que nous devons nous dire qu'en 4 ans, certes, tout n'a pas été réglé, et c'est un contexte qui n'est pas facile. Mais le monde, je pense, là, on a compris que l'unité du Mali, la stabilité du Mali, est une chose importante pour la stabilité de l'ensemble de la sous-région. Les intérêts des puissances ne se limitent pas au Mali, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Niger, que ce soit la Côte d'Ivoire. Ce qui atteint le Mali, finalement, a toujours des effets.
Alors finalement, réponse à cette question-là. Est-ce que les travaux d'embellissement de Bamako vont continuer?
J'ai donné la réponse en vous disant que le CENOSAF a agi sous l'impulsion du chef de l'État dans le cadre d'une vision qui n'est pas limitée.
Est-ce que les travaux sont finis déjà? Non.
Certains travaux ne sont pas finis. Je vous ai dit clairement, mais ce qui est resté...
Est-ce que ces travaux vont continuer?
Forcément, ça va continuer. L'éclairage intelligent va être installé. Il y a eu quelquefois des problèmes de logistique. Les équipes qui étaient là autour du président...
Les bitumages des routes vont continuer. Les initiatives poubelles dans les Sotrama également vont continuer.
Nous devons passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est quoi? Je veux le dire ici très clairement. J'ai vu cela dans d'autres pays. Et vraiment, je pense que les Maliens sont capables de le faire. Que le temps que nous passons au grain en train de prendre du thé, les jeunes, nous, d'autres, nous pouvons consacrer quelques minutes à nettoyer notre riz. Une heure de temps, nous pouvons le consacrer. Nous pouvons tous les samedis sortir sous l'impulsion des maires, sous l'impulsion des chefs de quartier, maison, et nettoyer les rues. Il faut se dire qu'il y a seulement quelques années, quand une rue n'était pas nettoyée, les gens étaient tout de suite amendés.
Merci.
Toutes les villes étaient propres.
Merci.
C'est cela qu'il faut. Non, c'est très important.
Merci.
Il nous reste
très très peu de temps, voilà. Le temps de faire réagir Djakari Poudougou, spécialiste en relations internationales. On a vu cette impulsion, hein, les gens ont rangé leurs problèmes. Que va-t-il advenir déjà cette situation à Minkanin qui, comme certains le disent, a démoli certaines infrastructures pour les deux jours du sommet. Maintenant, le sommet est fini. Qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là?
C'est pour cette raison, je disais tout à l'heure, qu'il faut faire très attention aux images, qu'il faut se méfier des images, pas celles que nous sommes en train de voir ou diffuser, mais plutôt l'apparence, aux apparences. Et ce serait regrettable s'il n'y a pas de suite pour ces gens après le sommet. Il faut un suivi. Il faut créer d'autres cadres.
Et en quoi ce sommet bénéficie à ces gens déjà, hein?
Et c'est là la question que j'avais posée. L'utilité de ces sommets, ce n'est pas son organisation en elle-même, mais ce qu'il va apporter. Et là, j'ai également souligné que quand on voit l'insécurité dans les autres régions du Mali, notamment Kidal, on voit que ça ne va pas. Et si aujourd'hui ces sommets avaient été organisés à Kidal, ça allait être déjà une réussite avant même sa fin.
Est-ce que ça aurait été possible, ces gars, d'organiser ce sommet?
Voilà ce qui aurait
été. Étant donné qu'il n'y a pas d'administration.
Je vais vous dire.
Très rapidement, il nous reste une minute.
Non, je vais vous dire. Je pense que le peuple français, plus que quiconque, peut comprendre la situation des Maliens et quelquefois les frustrations qu'il peut exprimer. Vous savez que la France aussi a connu des situations de ce genre. Vous connaissez l'histoire de l'Alsace et de la Lorraine. Hein? Eh bien, pour les Maliens, Kidal, c'est plus que l'Alsace et la Lorraine. C'est le cœur et la raison des Maliens.
On a la Corse également, mais c'est dans un contexte totalement différent.
Mais les contextes historiques ne sont pas les mêmes. Mais je veux dire que, tout en étant des Alsaciens, il y a eu cette réaffirmation permanente de l'appartenance, hein, des Alsaciens à l'ensemble français.
Merci beaucoup. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, merci. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur www.studiotamani.org, celle-là ainsi que toutes les autres. La mise en onde était assurée par Sedumbo. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aron Diallo. Salim Diouara était à la régie vidéo. Merci à vous, messieurs, également, mes interlocuteurs, d'avoir partagé votre expertise avec nos auditeurs. À demain pour notre émission.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.